Ils sont souvent représentés par la pauvreté, l'incivisme et l'insécurité. Mais la question est, y a-t-il que de mauvaises choses dans ces quartiers? Retrouvez sur Radio Veritas le magazine Mon Quartier, Mon Toit, votre magazine de valorisation des quartiers populaires. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon Quartier, Mon Toit, les quartiers populaires vus autrement.
Bonjour chers auditeurs et merci d'être à l'écoute des Radio Veritas pour cette nouvelle édition de votre émission Mon Quartier, Mon Toit. Pour cette sixième édition, nous allons nous pencher sur les évictions forcées, plus connues sous le vocable de déguerpissement. Pour rappel, cette émission est produite par le CODAS Caritas Douala à travers le projet de promotion et de protection du droit au logement décent par l'appui à l'amélioration des quartiers populaires, en abrégé projet AQP. La question du foncier, et particulièrement des déguerpissements, a dominé l'actualité depuis le 25 juin 2021, suite à la mise en demeure des populations du quartier Newton Aéroport, ici à Douala. Il s'en est suivi par la suite la destruction de nombreux logements le 26 juin 2021. Pour respecter la logique du déroulé de ce programme, nous allons retrouver l'homme de la rue pour qu'il nous dise ce qu'il pense des déguerpissements.
Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, Vox Pop.
Bonjour, êtes-vous pour ou contre le déguerpissement?
Je suis contre, parce qu'on va laisser les gens sans abri avec les enfants. Non seulement ça dérange l'éducation des enfants, puisque peut-être si les enfants sont peut-être comme à la maturité, quand on va casser là, ils seront obligés de chercher où dormir. Et il n'y a rien qui prouve qu'ils vont encore continuer l'école.
Non, je ne suis pas pour le déguerpissement, mais je suis plutôt pour le développement.
Contre. Personne ne nous casse, nous n'aurons pas où aller, non.
Le déguerpissement, c'est quelque chose qui n'avantage à personne, surtout quand la personne n'est pas recasée quelque part. Or, rien n'essaie de déguimpir quelqu'un lorsqu'on l'envoie juste à la belle étoile. S'il faut déguimpir les gens et les recaser, je ne trouve pas l'inconvénient. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans des quartiers inondés d'eau. Donc, si on vient les déguimpir en leur disant, on vous retire là où il y a l'eau pour vous mettre là où il y a la terre pleine et la terre sèche, ça ne peut qu'être bien. Mais si on déguimpir des gens que bon, allez où vous pouvez y aller, c'est là où il y a nuance. Donc, le déguerpissement, pour moi, n'est pas toujours chose mauvaise. Bon, si jamais, c'est juste une façon de dire aux gens, allez à la belle étoile, vraiment, c'est tant mieux les laisser où ils sont.
Ce contre le déguerpissement, voyez, si on vient déguerpir tout le monde, là, comment est-ce qu'on va faire pour survivre? La vie, vraiment, serait rétrogradée, hein? Et c'est pas facile de nos jours de reprendre la voie. C'est pas vraiment pas facile, vraiment, je suis contre ça.
Bon, je dirais que je ne suis pas pour le déguerpissement parce que le déguerpissement n'est pas d'abord une bonne chose pour la population. Nous constatons que beaucoup d'entre nous ici qui souffrent de problèmes d'inondation, d'encavement des routes, ajoutant encore ce déguerpissement, vraiment, nous ne savons pas si nous allons survivre. Parce que nombreux parmi nous aussi, la maison constitue pour eux le bien fondamental. Si aujourd'hui on déguépit quelqu'un, où ira la personne finalement? Donc je dirais que c'est pas une bonne chose.
Oui, je dis par rapport à cette question, je trouve que c'est un peu très difficile pour quelqu'un qui a presque pris ses racines quelque part et que d'un matin, on le débarque comme ça, sans aviser, sans donner de préavis et tout, et tout, et tout.
Bon, moi, je suis contre. Parce que quand nous cassons, on nous laisse sans rien. Alors que normalement, si on doit casser, on doit donner un logement pour ça.
Avant de répondre à cette question-là, nous avons seulement besoin qu'on améliore un peu. Pas de casse. Je ne suis pas d'accord pour le casse. Mais on peut ouvrir certaines voies pour laisser les eaux couler.
Ça va quoi de gameplay? Casser les gens. Hein? Mm-hmm. Moi, dans la zone verte, on vient me casser. Hein? Mm-hmm. Qu'il y a fait presque 40 ans ici. Mm-hmm. Mais 500 fois que je cherche le marché. Je construis mon mur, vous venez casser. Jamais. Je dis jamais. Je ne suis pas pour ça. C'est depuis les années qu'on vit. Ça fait 40 ans. On va pas venir aujourd'hui dire qu'on va me retirer. Je vais aller où? Même le village, je n'ai pas. Bon, le mur là, on laisse comme ça, l'eau me tue.
Par rapport au dégaspissement, moi je suis pour, dans la mesure du possible, que c'est quelque chose qui doit être de commun accord avec les populations pour essayer de trouver un terrain d'entente pour le bien-être de la population.
Qui peut accepter alors qu'on casse la maison? Qui peut accepter qu'on casse le lit pour vivre ici?
Gars, je ne suis pas pour man. On va habiter où? On va habiter où? Vous cassez comme ça que nous on part où?
Je suis contre. Bon, vu que le dehors est difficile et que les parents qui ont eu à construire à l'époque, si on casse ça, ils vont aller où?
Merci pour cet élément réalisé par l'équipe de communication du projet AQP. Nous allons poursuivre notre émission et pour le faire, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Nous recevons Bokmi Eto-Étienne Aurel. Bonjour Étienne.
Bonjour.
Voilà, vous êtes responsable juridique de la plateforme des organisations pour la défense du droit au logement, en abrégé Plafodal. Vous êtes très présent depuis les dégapissements de Newton Aéroport le 26 juin dernier. Qu'est-ce qui peut justifier un tel engagement de votre organisation?
Merci, M. Mike. Bonsoir à tous les auditeurs. Déjà, notre présence auprès des populations dégapies, c'est l'essence même des missions de la Plafodal. C'est-à-dire que la Plafodal est là pour assister déjà ceux qui sont déguerpis, ceux-là que l'État a mis, ceux-là dont l'État a détruit les maisons. Mais pas que ça, la Plafodal est aussi là pour sensibiliser les populations à ne pas s'installer dans les zones dites interdites, à ne pas s'installer dans des zones qui pourront plus tard leur causer du préjudice, mais aussi discuter avec les autorités sur comment améliorer les conditions et le cadre de vie des populations, sur comment faire en sorte que le mot déguerpissement disparaisse définitivement de notre vocabulaire et qu'on utilise un vocable plus poli, plus gentil, plus approprié envers les populations.
Voilà, merci Étienne. Nous recevons également M. Armand Noué. Bonjour Armand.
Bonjour Mike et bonjour aux auditeurs, auditrices de la Radio Veritas.
Voilà, vous êtes le chef du projet AQP, mis en œuvre par le CODAS Caritas, et vous travaillez dans l'amélioration du cadre de vie des populations. Qu'est-ce qui peut expliquer l'implication du CODAS Caritas dans cette lutte contre les déguerpissements?
Oui, je crois déjà à l'entrée de jeu, il faut rappeler que le CODAS Caritas est une œuvre de l'Église catholique Et vu dans ce sens, nous faisons ce que nous appelons la pastorale sociale. Et ici, dans le champ de la pastorale sociale, l'homme est au centre justement des actions de développement. Et donc, voyant comment les populations, je vais dire les habitants de certains quartiers, dans le cadre de certains projets, étaient évincés sans indemnisation ni recasement. Nous nous sommes préoccupés et nous nous sommes organisés avec d'autres acteurs de la société civile pour adresser cette préoccupation-là, et tout en espérant que les autorités vont prendre à cœur justement nos doléances et vont arrêter, comme venait de dire Eto tout à l'heure, vont arrêter de procéder aux évictions forcées lors de la réalisation des projets dits structurants.
Merci Amand, nous allons revenir vers vous tout à l'heure. Mais en attendant, nous allons passer à la prochaine articulation de ce programme. Il s'agit du reportage. Notre équipe de communication s'est rendue sur les décombres des cases de Newton, aéroport. Suivons plutôt.
Mon quartier, mon toit. Les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, les quartiers populaires vus autrement. Mon quartier, mon toit, reportage.
Oui, je vous dirai vendredi.
Nous sommes au siège du Codas Caritas Douala, où se retrouvent pour une énième fois les victimes des évictions forcées du 26 juin 2021 au quartier Newton Aéroport. Sous l'encadrement de la plateforme des organisations pour la promotion du droit au logement décent au Cameroun, en abrégé PLAFODAL, ces victimes se retrouvent pour mettre en place des stratégies pour rentrer dans leurs droits et trouver des solutions aux difficultés qu'elles vivent depuis la destruction de leurs biens.
Bon, vous savez, la casse arrive au moment où je ne travaille plus. Je suis un ancien fonctionnaire. On m'a mis en retraite il y a 6 ans. Donc cette maison me permettait de me loger avec mes enfants qui, pour certains, ont terminé l'école et qui ne travaillent même pas, d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis vraiment embêté parce que mes enfants, ils ne travaillent pas. Pourtant, ils ont fini l'école. Ils n'ont pas de revenus. Donc ça fait que nous tous, n'avons pas de revenus. Le seul petit revenu des pensions retraite que je reçois ne peut pas déjà nous permettre de nous loger. Bon, certains sont rentrés au village. Bon, je me bats là avec les tout petits. Je suis en train de me débrouiller à trouver un logement pour les tout petits qui doivent bientôt reprendre le chemin de l'école pour la rentrée, pour leur donner également la chance de réussite. Bon, vous savez, à un moment donné, on ne vit plus pour soi, on vit pour sa progéniture. Ouais. C'est vrai que bon, l'État ne prend pas ça en compte. Parce que si l'État tenait compte de tout ça, il saurait que ceux qui sont venus casser les maisons ont préparé vraiment des bandits de grand chemin pour demain. Parce que si nous, moi par exemple, j'ai la petite possibilité, parce que j'ai une petite pension, de chercher à renvoyer les enfants à l'école. Ce n'est pas le cas pour certains. Ce n'est pas sûr que pendant la rentrée, les enfants vont aller à l'école. Moi, j'avais non seulement une maison qui nous logeait, j'avais également une autre maison en location qui nous permettait de joindre les deux bouts. Tout a été rasé aujourd'hui. Donc, vous pouvez imaginer notre souffrance.
Comme dans le passé, ces évictions forcées ont donné lieu à des fortunes diverses. Si certains ont pu trouver un lieu où mettre la tête, par l'appui d'un membre de la famille ou d'une connaissance, d'autres sont dans le dénouement total sur le site des décombres. Certains ont érigé des abris de fortune pour pouvoir y passer la nuit. Une situation extrêmement difficile, surtout en cette période de pluie.
C'est pas facile, c'est une jungle. C'est déjà une vie en l'envers. C'est un calvaire. Et qu'on se rend compte que c'est encore les mêmes personnes, c'est-à-dire les gens de forte richesse qui nous mettent dehors. Ces gens qu'on a longtemps voté, on a voté, on était avec eux de plein cœur. C'est encore eux qui nous mettent dehors, c'est bizarre. Moi personnellement, je sors d'une grande famille, nous sommes dehors. Parfois je ne sais même pas là où ma maman dort, je ne sais pas. Donc moi je hais comme ça. Ils nous disent qu'on ne doit pas aller en aventure. Quand on va en aventure, on nous tue. On est dans notre propre pays, on n'est pas en paix. Bon, finalement, on va aller où? Mais on ne sait pas où aller. Parce que partout, c'est la misère. Partout, c'est le calvaire. On souffre. Donc, on est en aventure dans notre propre pays. Je hais partout. Je vois les Nigers, je vois les... C'est-à-dire tous les étrangers. Aujourd'hui, ils ont des maisons. Moi, je n'ai rien. Je n'ai même pas là où je vais mettre ma tête. J'ai mal au cœur. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand je ne regrette même pas, si je commets un acte, je ne regrette pas. J'ai des diplômes, mais je ne travaille pas. Je fais juste des jobs et puis c'est un genre. Nous vivons ainsi. Mais ce que je peux dire au gouvernement, c'est qu'ils doivent prendre ses responsabilités en main.
L'urbanisation, c'est un processus qui demande d'abord la viabilisation d'un site par l'appareil étatique, puis l'autorisation d'occupation de ce site par les populations qui ont besoin de l'espace. Donc il est inadmissible que les populations soient déjà implantées à un lieu et que l'on leur dise demain, vous allez déguerpir. Même si c'est accompagné des dédommagements, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce qu'il y a deux formes de préjudice qui sont causées ici. Le premier préjudice, il est d'ordre matériel. Dans la plupart de ces sites où on parle de déguerpissement, ils ont le fameux prétexte qu'ils aiment brandir. Ils n'ont pas de titre. Donc on n'évalue pas l'espace, on évalue juste le bien immobilier qui a été implanté là. Le deuxième préjudice, il est d'ordre moral. Si vous avez fait peut-être 30 ans sur un espace, vous vous êtes bâti une nouvelle famille, c'est-à-dire vos nouveaux voisins, pendant 30 ans. Et ici, on vous dit, vous allez déguerpir pour aller vous installer où? Même si vous disposez des moyens financiers, vous allez aller reprendre tout le processus à zéro. Imaginez quelqu'un qui a 60 ans, qui avait une paralysie partielle, qui vivait chez lui et que ce sont les enfants du voisin qui l'aidaient à aller chercher de l'eau pour qu'il consomme. S'il faut qu'il aille dans un autre site, qui le connaît, qui pourra lui rendre ces services-là. Par conséquent, il est contraint de retourner au village.
Malgré toutes ces difficultés, ces populations sont déterminées à se battre pour obtenir la justice dans ce qu'elles considèrent comme une violation de leurs droits.
Nous faisons des démarches, mais je ne crois pas qu'il est important de dévoiler sa stratégie parce que l'ennemi attend toujours pour faire une contre-attaque. Mais ce qui est sûr, c'est que des démarches sont prises. Nous avons des conseils. Nous avons Plafodal qui nous épaule. Nous avons des conseils juridiques aussi qui nous accompagnent. Donc, les démarches sont prises. Mais bon, là, je ne peux pas vous dire lesquelles. Mais ce qui est vrai, c'est que on va pas se laisser faire comme ça là. Non, c'est hors de question. Nous avons toujours dit que ce genre d'action est encadré par la loi et que l'autorité est censée de suivre la loi aussi. Ils sont pas tels qu'ils agissent là. Ils agissent comme des hors la loi. Pourtant, ils sont justiciables comme tout le monde. Donc, l'autorité doit suivre la loi et nous remettre dans nos droits. Ça veut dire nous payer, c'est une destruction pure et simple, ils doivent nous payer.
En attendant qu'une voie de sortie qui convienne à tout le monde soit trouvée, il est important pour les autorités de s'assurer que les dispositions minimales sur le plan administratif et légal sont respectées avant d'initier ce type d'action qui engage la vie des milliers de Camerounais. Par ailleurs, ces déguerpissements doivent interpeller les populations et les amener à s'entourer d'un minimum de sécurité lorsqu'elles s'installent quelque part. L'implication du CODAS Caritas Douala est motivée, comme l'a rappelé son coordinateur lors de la conférence de presse du 7 juillet 2021, par, je cite, « le désaccord avec la procédure ayant conduit à ces déguerpissements qui foulent aux pieds les principes de respect de la dignité humaine que défend la doctrine de l'Église, ainsi que les prescriptions du décret numéro 2008-0738-PM du 23 avril 2008 portant organisation des procédures de modalités de l'aménagement foncier, lequel décret précise en son article 6 que dans le cas d'un projet de restructuration ou de rénovation urbaine émanant de l'État, un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les modalités de reconnaissance et d'indemnisation des propriétaires avec ou sans titre foncier, les modalités de création de la zone de recasement et d'attribution des parcelles de la dite zone.
Merci pour cet élément très édifiant. Nous souhaitons beaucoup de courage à ces familles en détresse. Nous invitons par notre voix également les autorités à revêtir le caractère humain quand ils veulent prendre des décisions qui engagent la vie de nombreux citoyens. Je pense que c'est également l'objet de la chronique que vous nous proposez ce jour, Madame Tondier Catherine. Bonjour, Madame Tondier.
Bonjour, Blaise.
Alors, vous avez travaillé justement sur les déguerpissements et nous vous ouvrons le micro pour que vous partagiez avec nos auditeurs votre réflexion.
Merci Blaise. Bonsoir à tous les auditeurs. Cris, pleurs, telles sont les expressions employées pour exprimer leur désarroi le vendredi 25 juin dernier par les populations du quartier Newton Aéroport 1 à Douala, installées depuis 40 ans pour certains, devant autant de sacrifices, de souffrances et d'abnégations réduits en cendres par un coup de pelle d'un engin froid et impitoyable. Ceci dans le but de sécuriser l'espace aéroportuaire, dit illégalement occupé par des populations à l'initiative des aéroports du Cameroun qui ne présentaient pourtant aucun titre de propriété sur le dit espace jusqu'ici. Ce type de spectacle, Blaise, qui fait des populations sinistrées des sans-abri de plus dans la ville, est pourtant durement décrié par plusieurs organisations de la société civile, à l'instar du CODAS Caritas Douala, pour leur caractère déshumanisant. Ce type de spectacle vient rallonger la liste déjà longue des quartiers de la ville de Douala, sujet d'éviction forcée. Les initiateurs de pareils spectacles se recrutent dans tous les secteurs, le secteur public et le secteur privé. Pourtant, la Constitution de Cameroun, dans son préambule, reconnaît le droit à un logement à travers l'énoncé jumelé du droit à la propriété et du droit à un environnement sain reconnu à toute personne. Au niveau international, la Déclaration universelle des droits de l'homme, en son article 25, dit, je cite, « Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que des services sociaux nécessaires. Elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté. » Le Cameroun a adhéré à cette charte et est signataire de plusieurs conventions internationales qui garantissent un minimum de droits aux victimes d'éviction forcée. Et dans son rôle protecteur, il ne faut pas oublier qu'un enfant, quoique fautif, reste un enfant de la maison et donc doit rester sous un toit. Dans les enquêtes menées lors de ces multiples déguerpissements pour comprendre les motivations profondes, il s'est presque toujours avéré que les populations n'avaient pas pris les précautions nécessaires avant de s'installer, certes. Mais il faut également relever qu'elles n'avaient pas non plus la bonne information, elles n'avaient pas le bon accompagnement administratif et comme pour rappeler la déclaration, l'article 25 de la Déclaration internationale, la Déclaration universel des droits de l'homme, elle n'avait pas le niveau de vie suffisant. La vie est tellement difficile ces derniers temps, particulièrement par ces temps de pandémie COVID-19, qu'il est vraisemblablement difficile de croire que des personnes choisissent délibérément d'investir leur peu de revenus disponibles pour les voir réduits en cendres quelques temps plus tard. Ceci, même en l'absence de garantie de sécurité foncière. Pourtant, il faut le reconnaître, la sécurité passe par la recherche de la bonne information, telle que les réponses aux questions suivantes. À qui appartient le terrain sur lequel je voudrais m'installer? Est-ce une personne privée ou une institution publique? Le propriétaire a-t-il effectivement l'intention de vendre son terrain? Et si oui, quelle est la procédure à suivre? La sécurité foncière passe également par une visite au service du cadastre de la zone concernée. La sécurité foncière, enfin, et surtout, passe par un accompagnement des services des départements ministériels en charge de l'urbanisation et de l'habitat. C'est pour dire Blaise que si les opérations de déguerpissement sont en réalité la conséquence d'une série de négligences à tous les niveaux. Poussé par l'instinct de protection, l'habitant, non. L'homme est naturellement porté à s'installer quelque part. Et dans la course à ce besoin, il ne s'entoure pas toujours des précautions nécessaires. Mais c'est là où devrait entrer en jeu l'État, garant de la sécurité des hommes et des biens, protecteur des populations. Le phénomène d'habitat spontané n'est pas propre au Cameroun et les institutions internationales se sont penchées sur le sujet et ont pris la résolution que tout déguerpissement devrait être précédé de préalables. Et les déguerpis avaient, ayant tort ou raison, l'objectif ultime étant d'assurer à tout être humain le droit au logement. À très bientôt.
Merci Madame Tondier. Nous retenons que chacun doit prendre ses responsabilités. Et la responsabilité première est celle, bien entendu, de l'État qui a le devoir de loger l'ensemble de ses populations. Nous allons respirer en musique avant de passer à la deuxième partie de cette émission.
Depuis le haut du Manegoumba jusqu'au plateau de la Damawa, entendez-vous la voix maîtresse, la voix d'amour et de tendresse, à travers les prairies, les bois, pas les aimants.
C'est la voix
de la nation.
Amis,
c'est l'heure de la jeunesse. Suivons la voix de la sagesse. Il nous appelle, qui nous invite à l'union.
C'est
la voix de la nation. Elle nous dit, elle nous répète, mettez-vous bien ceci dans la tête, c'est dans la paix, dans la concorde, que Dieu fera miséricorde, nous lèverons bien au très beau notre fanion.
C'est
la voix de la nation.
Amis,
c'est l'heure de la jeunesse. Suivons la voix de la sagesse. Qui nous appelle, qui nous invite à l'union.
C'est
la voix de la nation. Souvenez-vous, cette voix sereine, confiante à Dieu, du pays la garde. Imaginez la joie immense que dans sa gloire Dieu bénisse nos enfants, le travail, la paix et la patrie.
C'est
la joie de la nation.
Amis,
c'est l'heure de la jeunesse. Suivons la voie de la sagesse. Qui nous appelle, qui nous invite à l'union.
C'est
la voie de la nation.
Merci Franck Mouna pour ce choix musical qui nous replonge dans la nostalgie. C'est une interpellation de Daniel Doumbé Eyango qui nous permet en ce moment précis, notamment les déguerpissements, la détresse, les actes inhumains de nos administrations. Cette chanson nous interpelle et nous appelle tous à revoir nos attitudes, à revoir nos démarches et surtout à mettre au premier rang l'être humain, à mettre au premier rang le Camerounais sans qui ce pays n'existerait pas. Donc nous allons passer à la deuxième partie de cette émission et nous allons revenir à nos invités. Donc je vais commencer par vous, Étienne Eto, Bokmis, pour faire différent avec l'autre. Vous êtes très présent, je l'ai dit tantôt, depuis les déguerpissements de Newton Aéroport le 26 juin dernier. On a vu la plat faudale au devant de la scène. C'est quoi la plat faudale? Et pourquoi cet engagement-là sur cette affaire, sur les déguerpissements de Newton? Est-ce que la plat faudale travaille depuis sur les questions de déguerpissement ou alors ils sont dans cette affaire-là depuis?
Merci Blaise. Déjà, la plat faudale, c'est la plateforme des organisations pour le droit au logement décent au Cameroun.
Pour la défense.
Pour la défense du droit au logement décent au Cameroun. L'abréviation, c'est plat faudale. Nous sommes basés à Douala. Et oui, nous travaillons dans le domaine des évictions, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que je n'aime pas trop ce mot-là, mais bon, tant qu'à faire. Nous travaillons dans ce domaine-là depuis une décennie maintenant, fort longtemps, puisque nous-mêmes, nous sommes le regroupement de collectifs de déguerpis et de potentielles victimes d'éviction forcée. C'est-à-dire que moi-même qui vous parle, ma mère avec une petite cabane au niveau de PK14, PK17, qui a été détruite par l'université de Douala. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore devant les tribunaux pour demander réparation. Donc nous sommes d'abord nous-mêmes victimes. Donc nous savons ce que c'est. Et puis nous accompagnons aussi les potentielles victimes. Nous avons des quartiers qui sont menacés d'éviction depuis longtemps. Et les populations de ces quartiers sont retournées vers nous autres pour les accompagner. Maintenant, notre forte présence depuis les cas de Newton Aéroport découle, comme de ce que je viens d'expliquer, découle de cela. C'est-à-dire que nous sommes là pour accompagner les déguerpis. Nous sommes là pour leur apporter le soutien moral nécessaire. Et pourquoi pas si nous pouvons les guider sur les procédures judiciaires à suivre pour demander réparation, parce que c'est un préjudice qu'ils ont subi, ils doivent demander réparation. Maintenant, je peux aussi parler des missions de la plat faudale, si vous voulez bien, je ne sais pas si on va revenir dessus. Donc la plat faudale est d'abord là pour premièrement accompagner les populations. Nous sommes auprès des populations d'abord, des déguerpis comme je l'ai dit, et des potentiels.
Et accompagner, qu'est-ce que ça implique concrètement?
Accompagner, ça implique quoi? Ça implique déjà quand vous êtes déguerpi, nous venons vous,
appui psychologique, appui juridique
et judiciaire, voilà. Bon, appui matériel, quand les moyens le peuvent, mais vraiment, ce n'est pas notre fort, puisqu'on n'a pas un budget pour ça. Mais appui psychologique, appui juridico-judiciaire, c'est nos deux axes majeurs,
Bon, peut-être je dirais aussi communicationnel.
Effectivement, j'allais en venir. Communicationnel aussi, parce que nous médiatisons beaucoup les cas que nous avons sous la main. Nous sommes aussi là pour sensibiliser les populations, parce que c'est vrai, la nature a horreur du vide, mais il faudrait au moins canaliser les populations pour qu'elles sachent qu'en m'installant à tel endroit, je risque ceci à tel ou tel moment. En m'installant à tel endroit, c'est mieux. Et pour m'installer à un certain endroit, il faut que je respecte un certain nombre de canaux juridique. Voilà exactement ce que je dois faire pour m'installer. Si on ne s'installe pas n'importe où, n'importe comment, à n'importe quel moment. Nous sommes aussi une intermède entre les populations et l'administration, parce que nous faisons du lobbying, nous faisons beaucoup de lobbying, nous discutons avec les différentes administrations. C'est vrai, beaucoup font la sourde oreille, comme toute administration camerounaise, mais bon, nous essayons quand même, à l'impossible, nous n'étant tenus, nous essayons, tant que peut se faire, de les amener à changer leur manière de voir les populations, leur manière de faire les choses. Parce qu'il y a toujours une manière différente de faire les choses.
Est-ce qu'il y a des moments où vous avez pu, par exemple, amener l'administration à revoir ses positions par rapport au cas d'éviction forcée à Douala?
Bien sûr. Je vais prendre le cas particulier de Nganga Gendarmerie, où il y a une route qui a été prévue depuis le présent, et Dieu sait, je ne me trompe pas. Mais avec la corruption et le monnayage qui existe dans ce pays, la route avait été détournée de son itinéraire initial pour aller, pour être rabattue sur les maisons des pauvres, entre guillemets. Donc les casses étaient même déjà prévues, tout était prêt. Les populations se sont opposées, elles nous ont saisis. Et nous avons saisi le ministre de l'Urbanisme et le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Mme Kecha Cortez. Et ensemble, avec les populations, avec le MINDU, nous avons créé une commission. Nous avons discuté. Nous sommes repartis vers les populations. Et nous sommes entendus pour qu'il y ait le moins de casse possible. Nous sommes entendus sur un itinéraire pour la route. Et aujourd'hui, tout le monde est là. Chacun a donné un peu. Chacun a mis un peu dedans son moulin, chacun a donné un peu de chez lui. Et puis bon, la route va passer sans que personne ne se retrouve à la rue. Nous avons aussi le cas du kilomètre 5.
Oui, peut-être avant que vous n'abordiez le cas du kilomètre 5, je voudrais peut-être préciser que le fait, vous l'avez dit, mais vous êtes passé un peu rapidement là-dessus. Cette concertation a permis à ce que des populations donnent leur espace gracieusement pour que la route puisse passer et que à la fin tout le monde puisse être satisfait. Et aujourd'hui c'est un cas, c'est l'un des cas typiques de résolution que vous avez pu accompagner parce que l'administration a bien voulu le dialogue avec vous. Vous étiez sur le cas des kilomètres 5.
Oui, sur le cas des kilomètres 5, plus précisément Tractafrique, où les vendeurs de planches étaient menacés d'éviction parce qu'ils obstruaient la haute tension. Nous avons discuté avec le ministre de l'eau et de l'énergie était sur le terrain. Nous avons été saisis. Nous avons saisi le ministre et toutes les autorités compétentes. Nous sommes entendus sur le recasement de ces vendeurs-là. Parce que, rappelons-nous quand même, ce sont des gens qui payent un peu plus de 100 millions d'impôts par an. Ce sont des honnêtes citoyens qui cherchent leur pain quotidien et qui sont détenteurs de toutes les autorisations légales possibles pour exercer leur activité en toute légalité et en toute transparence. Ils payent leurs taxes et leurs impôts en temps et dûment. Donc, après avoir exposé tout cela, nous nous sommes entendus avec le ministre de l'eau et de l'énergie et toutes les autres autorités compétentes pour que ces vendeurs-là soient recasés. Bon, malheureusement, jusqu'à présent, aucun site n'a encore été trouvé pour leur recasement. Mais pour le moment, ils sont encore sur leur site. Ils n'ont pas été déguerpés. Donc voilà, entre autres, les succès de la Plafodal.
Oui, merci Étienne. C'est bon de savoir que lorsque l'ensemble des parties prenantes se mettent sur la table, on parvient à trouver un résultat qui ne fait pleurer personne. Et voilà, qui permet à ce que les choses se règlent correctement. Monsieur Amanoué, rebonsoir à vous.
Bonsoir, Mike.
Voilà, vous êtes le chef du projet AQP. Je dois rappeler que vous êtes partenaire avec la Plafodal et vous êtes engagé dans les questions des évictions depuis une dizaine d'années probablement. Alors, comment est-ce que vous réagissez face aux évictions forcées qui sont devenues récurrentes dans nos principales villes?
Oui, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de savoir que jusqu'à présent, certaines de nos autorités, quand il faille réaliser certaines actions, continuent d'utiliser des méthodes barbares, cruelles même, inhumaines, pour pouvoir faire valoir la toute-puissance de l'État. Les cas de Newton Aéroport, il faut rappeler que ça fait... C'est la deuxième fois que les populations de cette zone-là subissent les évictions forcées. La première a eu lieu en janvier, je crois le 8 janvier. Et il faut dire que les populations venaient tout fraîchement, sortaient tout fraîchement des grandes fêtes de fin d'année et probablement la rentrée scolaire. Il y a eu casse, donc imaginez que beaucoup d'enfants n'ont certainement pas pu continuer avec les études qui habitaient cette zone-là. Déjà que si on veut respecter les prescriptions ou bien les directives des Nations Unies, la période n'était pas indiquée justement pour mener des évictions forcées, les fêtes de fin d'année. et aussi en temps de rentrée scolaire. Ça, c'était en janvier. Il faut dire que la sommation avait été servie aux populations, je crois, si j'ai bonne mémoire, 2 jours avant. C'était le 6 et les émissions ont lieu le 8. Le même phénomène s'est produit le 26 juin dernier. Et cette fois-ci, encore plus grave parce que les sommations ont été servies la veille. Toujours le 24, et pour justement avoir les
En fait, ça avait été signé le 24, mais les populations l'ont reçu le 25, soit 24 heures avant.
Tout à fait.
Les casses.
Et encore en une période justement d'examen pour certains enfants, qui n'est encore pas une période propice pour ce type d'événement. Vraiment, nous ne pouvons pas être ravis de savoir que nos autorités, certaines de nos autorités, ne respectent pas la dignité humaine dans des actes qu'elles posent.
Oui, surtout que le cas de Newton Aéroport est assez particulier parce qu'on l'a suivi dans le reportage tout à l'heure. Les ADC qui ont piloté, en fait, qui sont à la manœuvre selon nos informations, n'ont pas présenté un titre de propriété. Par contre, les populations qui ont été détruites ont présenté des documents qui justifient leur présence là-bas. Comment est-ce que vous comprenez cela?
Oui, je suis tenté même de dire, c'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas encore les éléments qui ont fondé cette éviction forcée. On n'a pas encore des éléments juridiques. Le préfet qui était le responsable, hein, qui a mené ces opérations, nous ont fait savoir qu'il procédait à une opération d'assainissement des espaces aéroportuaires. Et donc, il était question de déguerpir des populations qui s'étaient illégalement installées sur les titres fonciers de l'autorité aéronautique. Jusqu'aujourd'hui, aucun numéro, aucune référence de ces titres-là n'est communiquée à aucun acteur. Parce qu'il faut dire que plusieurs acteurs aujourd'hui sont mobilisés et impliqués et veulent savoir qu'est-ce qui a fondé cette action. Nous pensons aujourd'hui beaucoup plus que c'est une opération de hold-up, c'est d'accaparement de terre, s'il faut le dire même ainsi, et qu'il y a derrière cette opération des puissances, peut-être économiques, qui souhaitent avoir ces espaces parce que c'est bien placé, c'est presque au cœur de la ville, à côté de l'aéroport. On peut imaginer des types d'opérations, types d'infrastructures qu'on peut construire à ce niveau-là qui peut faire beaucoup d'entrées d'argent. Donc, c'est un espace qui est bien positionné et qui peut amener à beaucoup de convoitises. Donc, nous pensons que nos autorités, malheureusement, sont en complicité avec ces puissances économiques-là pour mettre à mal les habitants de Newton Aéroport 1. Et donc, les actions continuent d'être menées. Nous venons en appui beaucoup plus à la Plafodale, il faut le rappeler. La Plafodale qui est une organisation aujourd'hui fortement impliquée et outillée sur cette question de défense des droits des déguerpis. Donc, nous venons beaucoup plus en appui aujourd'hui parce que nous avons une autre action, nous avons donné une autre orientation à notre activité, mais nous restons braqués là-dessus et nous restons en veille pour que ensemble nous ne puissions pas vivre, parce qu'aujourd'hui c'est les habitants de Newton Aéroport, demain on ne sait qui.
Oui, vous l'avez dit, vous êtes sur une autre action, notamment avec le projet AQP. Mais pour nos auditeurs, comment comprendre, si vous voulez, la transition qui s'est déroulée entre le projet éviction sur lequel vous avez travaillé pour arriver aujourd'hui au projet AQP? Comment nos auditeurs peuvent comprendre cette transition-là?
Oui, c'est une bonne question. Merci encore, Mike, de nous permettre de comprendre, parce que ceci aideront les auditeurs à mieux comprendre le pourquoi nous sommes toujours intéressés par la question des évictions forcées. Bien que nous avons donné une orientation à notre activité. En fait, tout part de ce que nous avons constaté dans un premier temps que la plupart des actions de déguerpissement ou d'éviction forcée dans la ville de Douala et même dans les grandes villes étaient justifiées par le fait que les populations, les habitants des dix quartiers sont illégalement installés, n'ont pas respecté les mesures d'urbanisme pour le faire, sont installés sur des sites qui étaient réservés pour des projets structurants et bien d'autres. Et donc, chaque fois que ces habitants ou ces familles avaient l'information, c'était toujours à quelques jours des événements. Donc, ça avait l'administration, le plus souvent, ne leur donnait pas la possibilité de s'organiser pour défendre leurs intérêts, de s'organiser pour justement plaider, pour pouvoir dire, donner les raisons pour lesquelles elles se sont retrouvées là. Si tant est vrai que parfois, ces installations-là ne sont pas toujours illégales, parce que je vais dire que lorsqu'ils disent que l'installation est illégale ou anarchique, je vais aussi rappeler que c'est avec leur complicité que ces habitants-là, que ces familles parfois s'installent même sur des sites privés de l'État. Ces habitants ne s'installent pas généralement sur une journée. On a compris là des familles qui témoignaient de ce qu'elles sont là depuis 40 ans. Et on ne peut pas me dire que 40 ans après, on n'a pas vu venir, on n'a pas vu organiser progressivement les habitants. Et je vais rappeler, Mike, qu'il y a eu la loi 80, justement, que le préfet utilise pour atteinte à la propriété foncière. Dans cette loi-là, justement, l'article 7 de la loi dit que le sous-préfet devrait s'organiser pour veiller à ce que personne ne s'installe sur le domaine public ou sur le domaine privé de l'État. Ils utilisent seulement cette loi pour faire partie des gens, mais ils oublient que, eux, justement, l'aspect préventif de cette loi-là, ils n'ont rien fait pour mettre en œuvre cet aspect-là. Et donc, nous sommes aussi parfois tentés à les inviter, d'abord à mettre en pratique cet aspect avant justement de procéder aux éguerpissements. Et là, je pense qu'à ce moment-là, s'ils le font, lorsque une ou deux personnes se sont installées, je ne pense pas que ça ferait autant mal que lorsqu'ils laissent 40 ans après, où des gens ont construit toute une vie, toute une histoire, ont eu des liens culturels et même spirituels avec leur milieu, viennent comme ça là les mettre à la rue, et voilà des nombreuses familles qui perdent le repère, et il y a beaucoup de situations, de conséquences qui en découlent, parce que là, je crois dans le reportage, on a suivi un jeune homme qui disait qu'il ne sait même pas où est sa mère, il vagabonde dans la rue. Après, on va se poser des questions d'où vient justement un certain nombre de fléaux que nous rencontrons dans notre société. Donc, je pense que agir justement, penser, bien penser les opérations d'éviction forcée ou bien des projets qui visent à améliorer les conditions de vie, ça pourrait permettre à ce qu'on règle beaucoup d'autres problèmes. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons dit, peut-être en travaillant directement avec les populations qui habitent ces quartiers, qui habitent des quartiers où New Habitat appelle des quartiers précaires, nous avons appelé les quartiers populaires, on peut encore appeler les quartiers sous-structurés. Oui, nous avons pensé qu'en travaillant avec ces habitants-là sur le fait que il peut avoir de simple fait qu'ils sont pas bien installés, qui n'ont pas respecté certaines mesures d'urbanisme, on peut utiliser cet alibi pour leur faire partie, qu'il faut qu'ils commencent à agir, qu'ils commencent à s'informer, qu'ils s'organisent justement et aller vers les décideurs, les gestionnaires de la ville, en leur proposant justement des solutions pour améliorer leur cadre de vie. Qu'ils prennent conscience aussi qu'ils sont dans des cadres de vie peut-être pas très améliorés, qu'ils doivent osent aussi participer. Leur participation commence par leur organisation et l'interpellation justement de ceux qui sont en charge de gérer et d'aménager nos villes. Donc, cette orientation, en quelque sorte, vient en amont à justement à éviter qu'il y ait des évictions forcées. Le cas dont Eto venait de dire tout à l'heure, de Ngangé, pourrait également se faire à Newton Aéroport. Et on ne devrait pas avoir autant de familles mises à la rue. Et nous, quand nous regardons même les documents de la ville de Douala, nous constatons que la zone de Newton Aéroport, prévue par le plan d'urbanisme de la ville de Douala et le plan d'occupation de sol, indique que dans cette zone-là, on devrait faire une restructuration. Et la restructuration ne dit pas rénovation. Donc, dont nous voyons là, la restructuration demande qu'il y ait justement une réorganisation de l'espace avec justement, et en gardant les personnes qui sont sur cet espace, sur le même lieu, mais en leur apportant des infrastructures sociaux de base qui leur permettent d'avoir un cadre de vie mieux et meilleur. Donc ça, et c'est ce que la communauté urbaine de Douala a prévu à cet endroit-là. Pourquoi le préfet et les autres autorités qui, ensemble avec notamment l'autorité aéronautique, n'ont pas pensé à réaliser plutôt une restructuration à ce niveau-là? C'est pourquoi nous avons pensé, c'est un hold-up, ça fait partie également de toutes les manœuvres d'accaparement de terre. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, pendant que nous cherchons à voir les références de titres fonciers de l'autorité aéronautique, nous avons de l'autre côté un livret foncier de près de 19 hectares délivré à une famille appelée
Ebossé.
La famille Ebossé. Bien que ce livret ne soit plus aujourd'hui d'actualité, parce que la loi de 1974 a revu cela, aujourd'hui on parle des titres fonciers et autres, mais c'est quand même un élément qui permet l'installation de bonne foi de ces familles-là à cet endroit. Et toutes les personnes qui sont venues sur la base de ces livrets fonciers s'installer, on ne devrait pas leur tenir rigueur, parce que c'est au moins un élément qui a permis à ceux qui puissent prendre la décision de s'installer là où elles étaient aujourd'hui, là où elles étaient hier, parce qu'aujourd'hui on ne sait même pas là où elles sont. Donc voilà ce que je peux dire. Donc en un mot, notre réorientation permet à anticiper sur les évictions forcées.
Et la réalité, c'est que ce que vous faites avec d'autres quartiers à Douala, c'est-à-dire Mabanda, Bonewonda et tout, c'est cette démarche-là, par exemple, qui aurait pu être faite à Newton Aéroport, que de casser tout le monde comme ça a été fait.
Exact.
Voilà, je vais revenir vers vous, Eto. Certaines autorités trouvent que vos positions sont très dures et qu'elles participent à encourager les populations à s'installer n'importe comment. Comment est-ce que vous réagissez? Je dois rappeler que au niveau de la Plafodal, vous êtes près d'une dizaine d'organisations victimes et potentielles victimes des évictions forcées, et ça c'est sans compter ceux qui ne sont pas là, pour montrer que le phénomène est quand même important. Qu'est-ce que vous répondez aux autorités qui pensent que vous êtes très dur?
Non, mais ça c'est le propre des autorités camerounaises, être sur la défensive. Je pense que Amand a développé ici sur l'aspect juridique. Quand vous-même violez vos propres textes, soyons sérieux, nous sommes ici dans une radio de l'Église catholique, permettez-moi de faire une description dans la Bible. La Bible demande, les 10 commandements demandent aux enfants d'honorer leur père et leur mère. La même Bible demande aux parents de ne pas causer la colère de leurs enfants. Ramener ça à notre contexte, qu'est-ce que ça veut dire? L'État est le père et la mère. Nous, les citoyens, sommes les enfants. Nous devons honorer notre père et notre mère qui est l'État. Mais en même temps, l'État ne doit pas pousser ses citoyens à la colère qui sont ses enfants. Non, il faut être sérieux. Non, je veux dire que les autorités pensent que nous sommes contre elles. Mais au contraire, nous sommes plutôt pour elles. Parce qu'aujourd'hui, nous essayons de leur faire comprendre que ce qu'ils font, ce n'est pas pour les mettre, eux, en valeur. Tout passe, on dit tout passe, la vie continue. Les actes qui sont posés par ceux qui sont en fonction aujourd'hui vont suivre ceux qui seront en fonction demain. Parce que les évictions forcées, là. Hier, il y avait un autre préfet à Douala. Aujourd'hui, il y a un nouveau préfet. Demain, il y aura certainement un autre. Quand celui d'après, quand il viendra, que se passera-t-il?
La question reste posée. Monsieur Amand Noué, nous vous remercions. Est-ce que vous avez un mot de fin?
Non, merci encore pour cet espace dont nous permettez de présenter ce que nous faisons, d'interpeller les autorités et surtout de sensibiliser nos frères et sœurs par rapport à leur installation et surtout de les inviter à aimer leur quartier et travailler pour le développement de leur quartier.
Merci Étienne d'avoir effectué le déplacement. Merci à Madame Tondier qui, pour ses réflexions qui deviennent une habitude pour nous. Merci à Yann Gouit qui travaille en back office pour la réussite de cette émission et à l'ensemble des membres de l'équipe du projet AQP. Nous remercions également Franck Mouna qui est pratiquement devenu l'une des pièces maîtresses de la réalisation de ce programme. Nous disons merci aux auditeurs de Radio Veritas pour leur confiance. Et à ce micro de présentation, je suis Blaise Mickey. Je vous donne rendez-vous pour le mois prochain.